C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
18 novembre 1922, il y a 100 ans, mourait Marcel Proust à Paris, l'écrivain épuisé et à la santé par-dessus tout fragile est emporté par une bronchite mal soignée à 51 ans. De son vivant déjà, Proust s'était fait un nom, remportant le prix Goncourt pour son tome 2 de la recherche « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » paru en 1918. Depuis, Marcel Proust fait certainement partie des écrivains et écrivaines français et françaises les plus connus et lus à travers le monde. Pour revenir avec moi sur les détails de sa vie, parfois méconnue, la vie de Proust, la belle équipe de l'histoire avec un grand I. Bonjour Alexandre Belin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Aurélie Lamou.
Bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors pour commencer l'émission, peut-on rappeler pourquoi l'œuvre de Proust, sa façon d'écrire, sont si particulières?
Il est bavard. Il est bavard, Proust.
Il parle beaucoup. Ouais.
Il parle beaucoup,
il écrit beaucoup. Mais bon, il doit se parler avant d'écrire.
Bah, on le sait bavard dans la vraie vie, et on le voit qu'il est bavard dans son œuvre.
C'est vrai que dans la vraie vie, donc c'est un contemporain de plein d'autres écrivains. On pense à Flaubert, on pense à plein d'écrivains de cette époque qui disaient déjà aussi de lui qu'il était bavard effectivement, et pas que dans ses livres. Si on allait boire un café avec Marcel Proust, il fallait prendre sa journée.
Ah oui. Et puis on avait de la chance si on sortait du café avant la fermeture. Hein. Avant 2 heures, c'était quand même déjà un exploit. Non, Proust est bavard, il est bavard. Et on pense que c'est parce qu'on ne l'écoute pas assez qu'il se sent obligé de coucher tout ça sur papier.
Alors, comment ça se représente un écrivain bavard? Comment est-ce que, quand, dans l'écriture, on peut distinguer quelqu'un qui est bavard de quelqu'un qui ne l'est pas?
Eh bien, tout simplement, quand on lit ses textes, on voit qu'il ne fait pas de pause. Il a beaucoup de choses à dire. Il faut savoir que Marcel Proust avait une très bonne vue. Il pouvait voir n'importe quel détail d'un paysage ou de quoi que ce soit. Et donc, il s'amusait à décrire tout dans le moindre détail. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on lit ses œuvres, on s'imagine tout à fait dans ce qu'il a pu voir. Et quand on lit, ses phrases n'ont aucune fin. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point, il n'y a pas de pause. Et ça ne s'arrête jamais. Ça avance et on découvre tout ce qui l'entoure sans faire jamais une seule pause.
D'ailleurs, il n'y a pas un seul signe de ponctuation dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Pas un seul. C'est une longue phrase de 500 pages qui commence en disant « Ce matin, je regarde la montagne aux blanches cimes tandis que l'oiseau crie son cri et il se pose ses petites pattes dans la neige et je vois ses empreintes de pattes en forme de fourche. » Et c'est interminable. C'est à la fois très beau et très naturel et à la fois très ennuyeux.
Il faut savoir que ces œuvres sont... Il y a beaucoup de bibliothèques qui ont tenté de faire des lectures des œuvres de Marcel Proust. Et pour faire de la lecture d'œuvres de Marcel Proust à voix haute, donc...
Il faut être accroché.
Tout à fait. Et il y a une formation qui existe, une formation d'apnée. C'est une formation qui dure 3 mois et il se forme musculairement à être capable de dire des phrases aussi longues sans faire de respiration, et ce qui est quand même vraiment athlétique. Et voilà. Et donc tout le monde n'est pas capable de faire des phrases, de dire des phrases aussi longues sans une seule pause. Donc c'est vraiment une formation très intense.
La majeure partie des conteurs souvent étaient pour ces lectures sont des gens qui font des instruments avant et qui sont habitués à, vous savez, le souffle continu. Mmh. Voilà.
Mais il y a des gens qui se blessent en lisant Proust.
Hein. Ah bah il y a des gens qui se blessent en lisant
tout
Proust.
À fait.
C'est d'ailleurs.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut une autorisation, une licence dans les bibliothèques et les médiathèques pour avoir le droit de lire Proust à voix haute.
Il y a une forme d'asthme qui a été découverte par les chercheurs récemment qui s'appelle la Proustine, qu'on a nommée à cause de lui parce que bah, effectivement, c'est très caractéristique des lecteurs de Proust.
Très bien. Et est-ce que dans ces lectures, dans ces bibliothèques, est-ce qu'il y a du public qui vient encore aujourd'hui ou est-ce que ça n'attire plus grand monde?
Si, pour la performance, les gens viennent pour une question de performance en fait. Combien de pages je peux lire de Proust sans m'évanouir?
Dans l'année 1983, il y a d'ailleurs eu un concours de ceux qui réussissaient à dire le plus de phrases. Donc, plusieurs phrases à la suite.
Sans s'arrêter,
des œuvres de Marcel Proust. Alors, on a eu quand même un record du monde à 3 phrases, ce qui est quand même assez incroyable. Moi, ça m'a vraiment touchée quand j'ai vu ça.
Vous êtes une admiratrice, vous, de ce genre de discipline.
Oui.
On sait que vous avez, vous nous en parliez en off à Aurélie, vous avez milité pour que le comité olympique reconnaisse ça comme sport et que ce soit mis aux Jeux olympiques.
Tout à fait. Moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des apnéistes qu'on connaît qui font moins des temps plus courts que Damien Delagigue, il s'appelle. Donc un Français en plus. Voilà, on peut être fier de notre Français.
Cocorico.
Tout à fait. Et donc, Damien Delagigue a eu ce record de faire 3 phrases qui venaient d'ailleurs du fameux tome 2 qui s'appelle « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Et ça a permis d'ailleurs de faire énormément de publicité à Marcel Proust sur cette œuvre qui a eu un nouveau pic de popularité au moment où il a pu faire ce record de 3 phrases.
Donc Marcel Proust, bah oui, un homme, une œuvre, une discipline sportive...
Il est beaucoup de choses.
Justement, est-ce qu'on sait expliquer ce côté bavard qu'on trouve chez Marcel Proust? Et peut-être qu'on peut repartir de son enfance, tout simplement.
Mais vous avez bien raison, Guillaume, ça remonte à son enfance. Marcel Proust, 17 frères et sœurs. La famille Proust, famille très nombreuse. Et donc forcément, on n'a pas le temps de s'occuper du petit dernier, du petit Marcel. Qui doit se battre pour avoir sa place, pour avoir sa place à table, pour avoir sa place dans le temps d'écoute que les parents allouent à leurs enfants. Donc forcément, on essaie de parler pour être peut-être un petit peu entendu.
Il faut savoir aussi que la mère de Marcel Proust a une maladie qui est finie par la rendre aveugle. Donc elle va devoir distinguer ses enfants uniquement à l'aide du son de leur voix. Et il se trouve que Marcel Proust a une voix très commune. Et sa mère ne va jamais savoir duquel il s'agit. Et Marcel va énormément souffrir de cet inintérêt que sa mère a pour lui à cause de sa voix très commune.
Un des événements traumatisants de son enfance, à l'âge de ses 7 ans, Marcel est abandonné. Ils sont partis en vacances dans le Tarbes, toute la petite famille, donc papa, maman et les 17 enfants. Et on oublie le petit Marcel. Et on met 2 mois avant de s'en rendre compte.
Et d'ailleurs, c'est de là que ça vient son œuvre « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », dont le titre complet est « À l'ombre des jeunes filles en pleurs, je pleure la disparition de mon... » Pardon, excusez-moi, c'est très dur à dire, le Proust. Moi, je suis pas formé. Alors attendez, je le reprends. « À l'ombre des jeunes filles en fleurs, je pleure la disparition de ma famille qui m'a laissé abandonner sur cette aire d'autoroute. Oh là là, je suis triste. » Voilà, c'est le titre de...
Bravo.
Merci. Et donc voilà, en fait, c'était sur cette aire d'autoroute, il y avait des sculptures de jeunes filles qui étaient... Bah, on était au printemps, donc les jeunes filles étaient en fleurs. C'était des sculptures florales. Et le petit Marcel est abandonné pendant 2 mois. Et pendant 2 mois, voilà, il reste seul sur cette aire d'autoroute en se disant « Peut-être que ma famille va... » Et donc c'est tout l'œuvre, c'est tout ce que l'œuvre raconte.
À 7 ans déjà, on voit un talent d'écrivain qu'elle a, parce que c'est pas anodin si son livre qui remporte le prix Goncourt date de cet épisode-là, qui a l'air très marquant pour lui.
Bah, bien sûr. C'est une suite d'événements marquants en fait qui font que Proust essaye d'exister par la parole. À 12 ans, il est renvoyé du collège Jean Jaurès parce qu'il parle trop en cours. Le professeur ne peut pas en placer une. Et donc le petit Marcel est envoyé en pension dans la Creuse. Dans des classes qui sont pour pouvoir aller dans un collège avec des classes où il y a beaucoup moins de gens et donc où il pourra avoir plus de place pour son imagination.
Malheureusement, il est là-bas en tant qu'interne, donc il est dans un pensionnat. Et dans ce pensionnat, les chambres sont à plusieurs. Il n'a pas sa chambre à lui tout seul. Et donc, les garçons qui seront dans la même chambre que lui ne vont pas supporter cette bavardise incessante. Et il va se faire harceler par tous ses camarades de chambrée. Et ça va être vraiment très difficile pour lui, mais il ne pourra pas s'empêcher d'arrêter de parler.
Ils vont essayer de l'empêcher.
C'est quand même tragique, parce que effectivement, ça dégénère au moment où un de ses camarades de chambrée quitte le collège, ne pouvant plus supporter cet incessant flot de paroles de Proust. Et les autres, un soir, décident de l'attacher à une chaise et de tenter de lui couper la langue avec un couteau.
Mais comme ils parlaient de manière incessante, ils n'ont pas réussi à placer le couteau à l'intérieur parce que ça bougeait sans arrêt, ils n'ont pas réussi. Alors ils sont passés à la deuxième tentative, qui était tout autant cruelle. C'est que toujours attaché à sa chaise, ils l'ont porté, ils l'ont apporté dans les toilettes et ils lui ont plongé la tête dans les toilettes à de multiples reprises, attaché à la chaise.
Ils l'ont laissé là 15 minutes. Mais Marcel Proust, enfin, faut s'imaginer, quand on dit qu'il faut être champion d'apnée pour lire du Proust, bah, l'homme avait une respiration, il pouvait retenir son souffle pendant très très longtemps. Et il a retenu son souffle une demi-heure avant d'être secouru.
Et donc les harceleurs, eux épuisés de porter une chaise et un homme aussi petit soit-il en haut des toilettes, ils essoufflés, épuisés, ils ont lâché la chaise. Et Marcel n'a donc pas souffert de noyade dans les toilettes. Et sorti de cette eau des toilettes, il a continué à parler.
Il a continué à parler comme si de rien n'était ?
Tout à fait.
Ouais, il a un peu gesticulé pour marquer son mécontentement, mais pas spécialement choqué par cette scène.
Alors justement, avant de continuer dans l'histoire des différents épisodes qui entourent la jeunesse de Marcel Proust, je vous propose une pause musicale.
Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines, Madeleine elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène, Madeleine elle aime tant ça. Madeleine c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime, Madeleine elle aime tant ça, elle est tellement jolie. Elle est tellement douce, elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là, là. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le 30-33, trop tard pour les frites de chêne, Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime, Madeleine elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine qui n'arrive pas. Ce soir j'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas, je les ai jetés comme toutes les semaines, Madeleine ne viendra pas. Ce soir j'attendais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma, je reste avec mes je t'aime, Madeleine ne viendra pas. Madeleine c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir j'attendais Madeleine, tiens, le dernier tram s'en va, on doit fermer chez Eugène, Madeleine ne viendra pas. Elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant tellement tout ça, elle est pourtant toute ma vie, Madeleine qui ne viendra pas. Mais demain, j'attendrai Madeleine, je rapporterai du lilas, j'en apporterai toute la semaine, Madeleine, elle aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène, Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, tant pis si elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Demain, j'attendrai Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime, mais Madeleine,
et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I, c'était Madeleine de Jacques Brel.
Ah bah oui, Madeleine. La Madeleine de Proust.
Exact.
C'est une histoire ça aussi. Quand on parle de sa Proust, tout le monde pense à la Madeleine de Proust, mais peu de gens savent ce que ça désigne réellement. Est-ce que vous le savez autour de la table ?
Moi, oui, oui.
Bien sûr.
Bah, les historiens le savent. Madeleine, la première femme de Marcel Proust. Une histoire très belle, une histoire tragique. C'est d'une femme sourde qui n'avait pas,
qui
sourde de naissance.
Sourde de naissance.
Qui ne souffrait donc pas de la bavardise de Marcel Proust. Tout et c'est ça qui l'a touché chez lui.
Tout à fait. Il parlait pour deux finalement. Enfin, même peut-être pour trois.
Même peut-être pour trois. À quel moment est-ce qu'il se rend compte dans la vie ces deux protagonistes-là ?
Ils se rencontrent assez jeunes, justement. Marcel et Madeleine se rencontrent dans ce collège de la Creuse, dans ce collège Jean Jaurès également, d'ailleurs. Ils se rencontrent quand ils sont en cinquième. Le petit Marcel tombe immédiatement amoureux de Madeleine, qui ne le remarque pas spécialement de premier regard, quoi. Mais Marcel va mettre énormément d'énergie à essayer de séduire Madeleine en commençant à justement avec ça à lui envoyer ses premières lettres et donc à s'entraîner à ses premiers écrits. Il lui décrit tout, absolument tout. Et lui écrit sa vie sur papier.
C'est une très belle histoire d'amour qui prendra fin de manière un peu triste parce que Marcel et Madeleine se marient et en geste symbolique, Marcel Proust décide d'apprendre la langue des signes pour pouvoir communiquer plus aisément avec sa femme. Et c'est là qu'elle se rendra compte
que Marcel est bavard. Très, très bavard.
Hein. Bavard, quoi. Et donc, ne cessant de signer toute la journée, elle demandera le divorce.
Oui, donc assez tragique, en fait. Tant que les bavardages de Marcel Proust n'étaient pas visibles ou entendables, le couple fonctionnait bien. Comment est-ce que réagit Marcel Proust face à cette demande de divorce ?
Il est complètement terrassé, il ne sait pas comment se relever de ça. Et d'ailleurs, ce qui va inquiéter énormément tous les gens qui le connaîtront, c'est qu'il va se taire pendant une minute. Donc ça va être très difficile. Après ça, il va essayer de noyer son chagrin dans l'alcool, malheureusement. Et il va énormément cuisiner et faire des madeleines pour essayer de se rappeler sa madeleine d'antan, celle qu'il a perdue, mais avec qui il a passé de merveilleux moments.
Il écrira aussi des écrits cathartiques. Moi, je pense à ce poème, qui est magnifique, que j'aimerais vous lire.
Pitié, lisez-le nous, Julien.
Vous ne voulez pas vous échauffer avant ?
Non, mais ça va aller, je vais y arriver.
D'accord.
Alors... « Oh, ma Madeleine, toi, ma Madeleine, je pleure, ma Madeleine qui a disparu. Ma petite Madeleine, tu es comme une Madeleine, celle qu'on mange, pas toi. Non, toi, tu n'es pas une Madeleine qu'on mange, tu es une Madeleine humaine, mais tu m'as quitté car je signais trop. Oh, mon Dieu, je suis bavard et la bavardise m'a perdu. Ma longue parole qui me hante et qui me... »
Ça va, Julien ?
Alors, attention...
Attendez, Julien, faut reprendre votre souffle.
Pardon, je vais.
Il faut pas faire ça sans entraînement.
Vous êtes surestimé là, Julien.
Ah, je suis presque arrivé à la moitié.
Bon.
Bah oui, mais bon, il faut de l'entraînement quand
excusez-moi.
Même.
Mais effectivement, ça va encore plus, cette expérience va encore plus doper l'écriture de Marcel, qui va finir par arrêter de parler uniquement quand il écrit. Et donc, en fait, les gens vont le faire écrire un peu malgré lui. Ses amis vont lui dire qu'il a un talent immense pour ça. Et c'est pour ça que Marcel va se noyer dans les livres.
Son œuvre « À la recherche du temps perdu » qui compte 7 tomes. « La recherche du temps perdu » qui lui a été proposé par un ami comme titre. Parce que c'est tout ce temps que Marcel perd à parler. Et donc, en écrivant, ses amis sont à la recherche de cherchent à perdre ce temps qui est perdu.
Il faut savoir qu'à la base, Marcel Proust n'était pas particulièrement doué à l'écriture, mais à force d'écrire pour fuir la parole, surtout pour que ses amis fuient sa parole, il va tellement écrire tout le temps que sa plume va finir par s'aiguiser et il va avoir une écriture extrêmement fine et il va pouvoir écrire des poèmes aussi beaux que ceux qu'on peut lire aujourd'hui, qui sont quand même, on peut le dire, dans les œuvres littéraires les plus belles aujourd'hui.
Tout à fait. Il aura un peu de mal à se faire publier, malgré tout, parce que lorsqu'il rencontre des éditeurs...
Il faut parler.
Il faut le lire aussi.
Il faut se taire. Et donc, la plupart des éditeurs le prendront en grippe parce qu'ils ne leur laissent pas le temps de lire. Dès lors qu'ils ont le manuscrit sous les yeux, le moulin à la parole est enclenché. Donc, Marcel explique son œuvre. Mais il aura de la chance avec un éditeur sourd aussi qui décidera de publier son À la recherche du temps perdu.
Comment se passe l'arrivée là, de son premier livre ? Est-ce que tout de suite il y a un public pour ce genre d'écrit qui est assez nouveau ? Ou est-ce qu'au contraire ça met plus de temps que ça ?
C'est pas, on parle d'un premier livre, mais en fait Marcel passe son temps à écrire, donc c'est le premier livre publié et qui a du succès. On pense que Marcel a au moins écrit un bon millier de livres pendant et puis pas des nouvelles hein, vraiment c'est des gros pavés de 1000 pages à chaque fois, plus d'un millier de livres, et en fait sur le nombre il y en a un qui fait mouche. Et donc, celui qui fait mouche s'appelle... le nom m'échappe parce qu'il est très très long.
Bah, peut-être que vous pouvez le lire, moi je me suis un peu essoufflé.
Bien sûr. De l'autre côté du miroir, celui qui est doré et grand dans le salon jaune que mon grand-père a toujours aimé, mais dans lequel je n'ai jamais aimé le thé qu'il préparait avec ma grand-mère lorsqu'il mangeait des sablés que nous avons achetés lorsque nous étions en vacances à Saint-Brieuc.
C'est très impressionnant.
Très impressionnant.
Merci.
On sent le, il y a de l'expérience.
Bien sûr, oui. Moi, je n'ai pas encore atteint le niveau de Damien Delagigue, mais peut-être un jour.
Mais non, mais on vous a vu au départemental et vous avez fait un très bon
et
score.
Oui, ben oui, 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 j'ai réussi à finir 32e quand même. Ouais. Voilà, je suis pas peu fière.
Félicitations. Et donc ouais, ce premier livre est en fait un, c'est celui qui sort du lot, mais oui, quand on, vous savez, c'est un peu comme une expérience mathématique. Quand on tend vers l'infini, on peut tout trouver, et dont une réussite littéraire.
Alors justement, ce qu'on a prévu pour cette émission, c'est un peu particulier. On va tenter une performance. On va lire un extrait de ce premier livre rendu public de Marcel Proust. Je ne vais pas redire le titre, on y sera encore pour 2 minutes 30. Je vous propose qu'on démarre. On va faire la performance à trois voix. Je vais vous laisser alterner et avancer comme ça dans le livre et on s'arrête au moment où on aura... atteint nos limites physiques.
Bah, j'espère que les auditeurs nous pardonneront les ratés parce que c'est particulièrement difficile comme exercice ce qu'on s'apprête à tenter.
On est parti.
Avec mon épouse, nous sommes partis dans un petit village de campagne où les écureuils sont en train de commencer à me grignoter notre petit pique-nique. J'ai décidé de prendre avec moi du pain, du fromage et un petit peu de bière que je pourrais partager avec ma bien-aimée.
J'avais du raisin également, elle adore le raisin, ma bien-aimée. Nous étions ensemble en train de grignoter lorsque cette petite écureuil a pris le raisin et le raisin il l'a emporté dans l'arbre. Dans l'arbre, il y a un corbeau lui a volé. Ce corbeau, c'était en réalité un oiseau
noir que nous n'avions jamais vu jusque-là, qui était d'ailleurs à la page 37 de mon livre d'ornithologie. Nous avons tous ensemble passé beaucoup de temps à rire de cette tête d'oiseau qui n'était jamais tout à fait...
Une tête d'oiseau parce qu'en fait finalement je me suis rendu compte que c'était une loutre qui était montée dans l'arbre et un arbre très beau parce que la loutre a décidé de mettre un peu de poil dessus, ce qui le rendait complètement
charnu. Et d'ailleurs c'était un arbre qui avait conservé toutes ses feuilles de l'hiver car arrivant en ce mois de novembre, les autres arbres avaient perdu de leur splendeur. Mais cet arbre-là conservait sa nature merveilleuse.
Grâce au soleil qui était toujours là et qui se reflétait sur un ruisseau qui passait par là, un ruisseau qui faisait tourner une petite roue d'un moulin pour fabriquer du papier qui se trouvait dans le coin et qui faisait d'ailleurs la fortune du village de Monzan-sur-Loire.
Bon, ça va Aurélie ? Vous allez bien ?
Oui, pardon, excusez-moi.
Bon, on va s'arrêter.
Non, on va s'arrêter là.
C'est une belle performance déjà, je pense qu'on a bien fait une ou deux pages là.
C'était difficile, ouais. Faut pas se blesser.
Bravo à vous. C'est la première fois qu'on tente ce genre d'exercice.
Il faut quand même préciser aux auditeurs de ne pas essayer ça chez eux. Nous, on a un secouriste qui est juste là au cas où. Voilà, il faut faire ça intelligemment.
On vous remercie Bernard.
Merci Bernard.
Et Hervé. D'ailleurs, on a entendu dans cet extrait qu'il parlait d'une certaine rivière. Marcel Proust avait un goût prononcé pour la baignade. Et c'est malheureusement ce qui causera sa perte.
Ben oui, ça et bon, son bavardage incessant. Vous l'avez dit en introduction, Guillaume, Marcel Proust est mort d'une bronchite, assez jeune, à 51 ans. Il aimait se baigner dans la rivière. Là, l'extrait du livre se passe en novembre. Il se baignait dans cette rivière même en novembre. Et ça, couplé au flot incessant de paroles, forcément entraîné dans la maladie.
Quand on se baigne dans une rivière en novembre, il faut s'échauffer. Bon, Marcel Proust, bien qu'habitué à contracter une bronchite qui lui sera fatale, les médecins lui disent d'arrêter de parler parce qu'il s'essouffle, mais Marcel ne peut pas. Et c'est là qu'est toute la tragédie, c'est que sa condition d'homme bavard le conduira à sa perte.
Mais oui, voilà, c'est tragique, il décède donc en ce mois de novembre 1922, le 18. Hein. D'ailleurs, c'est son centenaire cette année. Et à sa mort, les médecins se sont intéressés à son cas quand même, parce qu'un homme qui ne cesse de parler, c'est quand même quelque chose. Ils ont notamment étudié sa langue, qui était d'une musculature étonnante. On pouvait vraiment distinguer tous les muscles de sa langue qui étaient saillants. Les, les, le médecin légiste qui l'a examiné estimait que Marcel pouvait, à la seule force de cet organe, soulever des poids de plus de 50 kilos. Donc c'est quand même...
D'ailleurs, il y a eu énormément d'arnaques sur le Darknet de gens qui prétendaient posséder la langue de Marcel Proust et la vendre à des personnes qui aiment la viande humaine, parce que ça aurait été d'une qualité...
Une viande tendre.
D'une qualité de viande absolument incroyable. Bien sûr, c'est une arnaque. La langue de Marcel Proust est toujours restée dans la bouche de Marcel Proust.
Mais d'ailleurs, il y a une pièce, La langue de bœuf. Ça vient de Marcel Proust.
Tout à fait.
L'appellation de cette pièce de viande.
Avant de terminer l'émission, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table pour les auditeurs et les auditrices qui sont vraiment tombés de leur chaise en entendant cet extrait de Marcel Proust? Quelle est la meilleure façon de s'investir dans cette littérature qui est complexe? Par où est-ce qu'il faut commencer?
Moi, je recommanderais sa biographie. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Une autobiographie donc qu'il a écrit juste avant de mourir et où on sent toute l'essoufflement de cet homme vers la fin de sa vie.
Moi, je recommande un morceau de musique très connu, The Sound of Silence de Simon & Garfunkel, qui a été écrit à la mémoire de Marcel Proust pour dire que peut-être que finalement le silence est d'or.
Et moi, je vous conseille fortement de lire la fameuse œuvre qui lui a fait gagner un prix Goncourt, donc L'ombre des jeunes filles en fleurs, mais de le lire en braille, car c'est beaucoup plus intéressant et on observe beaucoup plus de nuances, je trouve, avec cette écriture.
Très bien, allez lire Proust, ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré à Marcel Proust, sa mort. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.